Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire la plus stupéfiante de l'histoire du crime contemporain. L'affaire Sid Ahmed Rezala, dit le tueur des trains. En 1999 et 2000, il aurait tué 3 femmes. Et je dis il aurait, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Je vous préviens, cette histoire est celle d'une série de ratés, de bévues et de boulettes qui ne rendent pas vraiment hommage à la police française. Voici donc l'histoire d'une enquête maudite. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
La scène se déroule par une soirée glaciale de décembre 1999, sur le quai de la gare de Douai, dans le Nord, à l'heure du départ du train de nuit Calais-Vintimille.
L'intercité de nuit numéro 3731, départ 23h20, va entrer en gare Voisinac. Il dessert à l'avant du train Limoges, Castelnaudary, Carcassonne, Lézignan, Narbonne.
La gare est déserte. Il fait un froid de gueux. Les lampadaires jaunasses donnent aux rares passagers sur le quai des gueules de déterrés. Et nous allons nous intéresser à cette petite famille-là, qui attend. Papa, maman et un gamin. Elle, c'est Corinne Caillot. Sa maman est malade, elle va lui rendre visite dans le sud. Et elle y va avec son fiston. Et lui, à côté, ben, c'est son mari, Xavier. Lui, il reste. Il est juste venu les accompagner.
Nous rappelons aux personnes accompagnant les voyageurs qu'elles ne doivent pas monter dans les voitures.
On n'a pas le droit de monter, mais Xavier monte quand même, pour les aider à s'installer dans la voiture 46. Et puis voilà, le train démarre. Xavier dira que quand il a vu sa femme et son fils partir dans ce train, il les a sentis si vulnérables. Dans le compartiment couchette numéro 46, Corinne et son fiston ne tardent pas à s'endormir, bercés par la musique des rails. Vers 2h du matin, Corinne a sans doute eu une envie pressante. Alors elle s'est levée sans faire de bruit. Elle a refermé tout doucement la porte coulissante pour ne pas réveiller le petit. Et elle s'est dirigée vers les toilettes. À 2h54 précisément, juste après Dijon, le contrôleur tire le signal d'alarme.
Centrale, ici le contrôleur du Calais-Vintimille. On a trouvé une femme morte dans les toilettes. Une boucherie effroyable, hein. Elle a été lardée de coups de couteau sur le cou et la poitrine. Il y a du sang partout. Partout.
Le train est arrêté en pleine voie. Et voilà la police qui arrive. Les policiers font les premières constatations.
Regarde, elle a toujours son sac banane autour de la taille. Regarde dedans si on lui a volé quelque chose. Ben non, non. A priori, rien, il y a de l'argent dedans. T'as remarqué, elle est tout habillée. Ça veut dire qu'elle n'a pas été violée, hein.
Pendant ce temps-là, de wagon en wagon, d'autres policiers se lancent à la recherche du tueur. On ne sait jamais. Il est peut-être toujours à bord. Ils trouvent des traces de sang sur la porte d'un compartiment et d'autres traces sur un accoudoir. Ils interrogent ensuite les passagers de la voiture 46, qui sont réveillés, évidemment, dans le couloir, en pyjama et chemise de nuit, à se demander ce qui se passe.
« Vous avez vu ou entendu quelque chose ?»« Ah non, non. Enfin, si, ça peut-être vous intéresser. Il y avait un drôle de gars tout à l'heure, très, très agité. Il fumait un joint juste après le départ à la fenêtre. »
Les contrôleurs aussi ont vu le bonhomme.
« Je l'ai verbalisé, moi, ce gars. Il n'avait pas de billet. » Donc vous avez son nom? Ouais, il avait sa carte d'identité, il s'appelle... Voilà, Rezala, Sid Ahmed Rezala, 20 ans. Il a donné une adresse à Marseille, mais pas la peine de le chercher dans le train. Hein. Je l'ai vu descendre à Dijon.
Un avis de recherche est immédiatement diffusé dans toute la France. Et maintenant, eh bien,
Il faut aller réveiller le petit garçon de Corinne qui dort à poing fermé dans sa couchette. Lui dire qu'il est arrivé quelque chose à sa maman. Surtout ne pas lui donner de détails. Et ne pas le faire passer devant les toilettes. À 350 km de là, en pleine nuit, les gendarmes de Châteauroux, dans le Berry, reçoivent l'avis de recherche. Et ça fait tilt tout de suite. Redzala, là. Sid Ahmed Redzala. C'est pas le gars qu'on cherche depuis 2 mois ? Ils le cherchent depuis le 13 octobre. Depuis qu'on a retrouvé le corps d'une jeune femme sur le bord de la voie ferrée, un peu avant la gare de Chabenais, au sud de Châteauroux. Elle n'avait pas de papier. Mais à son poignet, sa montre était arrêtée à 4h10. Or, 4h10, c'est pile l'heure à laquelle passe le Paris Limoges. Et donc, on l'a identifiée 5 jours plus tard. Une jeune Anglaise de 20 ans qui s'appelait Isabelle Pic, portée disparue depuis qu'elle avait pris un train en gare de Limoges. Ce qui, dans cette affaire, a permis d'arriver à Redzala, c'est un appel lancé aux usagers réguliers de la ligne. Des gens appellent pour dire qu'ils ont vu Isabelle Pic.
Moi, je l'ai vue à la gare de Limoges. Et elle parlait avec un jeune homme de type maghrébin. Et ils sont montés ensemble dans le train. Et après, ma foi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je les ai vus s'isoler dans un compartiment.
Grâce à ces témoignages, les gendarmes de Châteauroux ont pu établir un portrait robot. Gros nez, grosses joues, une casquette. Tout ça a débouché sur une liste de suspects parmi lesquels figurait un nom, Sid Ahmed Redzala. Ah, un élément qui a son importance. D'après le médecin légiste, Isabelle Pic a été jetée vivante du train. Vivante. On a affaire à un gros, gros, gros tordu. Maintenant qu'on recherche Redzala pour 2 meurtres sordides commis dans des trains, qu'est-ce qu'on sait de lui? Les flics passent son nom au fichier.
Oh merde! Il a un sacré pédigré, hein? Écoute ça. Vol, dégradation, violence et même un viol. Il a fait de la prison. Et j'ai peut-être la preuve que ce Redzala est notre homme, figurez-vous, qui s'est fait aligner 42 fois ces derniers temps par des contrôleurs dans des trains. Et bonne nouvelle, il a donné une adresse dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille.
Renseignement pris, c'est le domicile de ses parents. Mais ça peut faire aussi une planque de rêve. Les flics de Dijon appellent tout de suite leurs homologues de Marseille, qui mettent en place une surveillance discrète. Mais ils ont négligé un paramètre, la presse. Les journalistes à qui ils ont demandé jusque-là de taire le nom de Redzala.
On ne doit pas savoir qu'on le recherche, hein ? On est d'accord, hein? Vous gardez ça pour vous. On est d'accord.
D'accord? Manifestement, non. Puisque le lendemain matin, le nom de Redzala est dans plusieurs journaux. Mieux que ça, un journaliste de François a obtenu l'adresse des parents à Marseille. Et il arrive chez eux avant les policiers. Et il tombe sur le père.
Bonjour, monsieur. Je cherche Sid Ahmed Redzala. Ah, Sid Ahmed. Vous venez de le louper de peu. Hein. Il est parti il y a 5 minutes.
Pour les flics, tout ça fait un peu tâche. Hein. Se faire doubler par un journaleux et laisser filer Redzala, qui sait maintenant qu'on le recherche. Je peux vous dire que les poulets de Marseille se font copieusement souffler dans les branches par leurs collègues de Dijon. Ils ont sacrément merdé. Et maintenant, faut le retrouver. Les flics de Marseille ont la pression pour mettre la main dessus, je vous le dis.
Il n'a pas quitté le quartier, je pense, le gosse. C'est sûr, hein. À mon avis, il est resté à la Belle de Mai, j'en suis presque certain. C'est le seul endroit où il connaît suffisamment de monde pour se planquer.
Ses parents, ils ne savent pas où il est. Son frère, il prétend avoir passé la nuit du meurtre dans le Paris Vintimille avec lui, à Marseille.
Oh, je me souviens très bien. On est allé boire des coups dans un bar de Marseille. Il était détendu, et même, je dirais, souriant. Et après, on a joué au baby-foot jusqu'à pas d'heure, quoi. Vous devez vous tromper, à mon avis. C'est pas lui.
Je peux vous dire que si la patronne de la PJ de Marseille, la commissaire Fontaine, trouvait le collègue qui a balancé le nom de Rezala au journaliste, et si elle avait sous la main le journaliste de François qui a tout fichu par terre, elle leur tordrait le cou. Parce que maintenant, on a un potentiel tueur en série dans la nature. Si on ne le trouve pas vite, est-ce qu'il ne va pas en tuer une troisième ? À ce stade, il n'y a qu'une piste pour avancer. Et c'est toujours la même. Entrer dans la tête du tueur. Tenter de comprendre comment il fonctionne. Et pour ça, il faut savoir d'où il vient, ce qu'il a fait avant. Sidi Ahmed Rezala est algérien. Il est arrivé à Marseille, il avait 14 ans. Ses parents ont fui la guerre civile en Algérie. Et autant en Algérie, c'était un bon élève et un gamin sans histoire, autant à Marseille, il l'a mal tourné tout de suite. Il s'est mis à sécher les cours, à traîner avec tous les relous du quartier, à picoler et à fumer des pétards dès le petit déjeuner. La police de Marseille le connaît bien, hein, depuis qu'il s'est lancé dans des vols de sacs à main à 15 ans. Et surtout depuis qu'à 16 ans, il a dépouillé et violé un gamin à peine plus jeune que lui, 14 ans. Et pour ça, il a pris 4 ans, dont 18 mois ferme et 30 mois de mise à l'épreuve. Bon, je viens de recevoir son dossier à la pénitentiaire. Le gars a détruit plusieurs fois sa cellule. Et il signale qu'il a été victime plusieurs fois de crises d'épilepsie. À part ça, rien d'autre. Hein. Quand il sort de prison, Rezala tente un apprentissage dans l'hôtellerie. Oh, ça ne dure pas longtemps. Il finit par rejoindre ses copains de la gare Saint-Charles à traîner, à bédave et à dealer. Et c'est là, quand il zone à la gare Saint-Charles, qu'il commence à prendre le train. Toujours sans payer, bien sûr. Il se fait pincer dans toute la France et jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas. À 18 ans, il tombe amoureux d'une certaine Nadia, qui tombe tout de suite enceinte. Et ça oblige le jeune Sidi Ahmed à se mettre au boulot dans un petit restaurant, sans lâcher son petit business de loulou de la belle de mer, et sans renoncer à ses voyages en train. Un jour d'ailleurs, il blesse un vigile de la SNCF à coups de couteau. Retour à la casse-prison. Il en sort 6 mois avant le meurtre du Calais Vintimille. Voilà à peu près tout ce que les policiers de Marseille ont réussi à apprendre de lui. C'est à ce moment-là qu'entrent en scène les policiers d'Amiens, en Picardie. Un matin, un jeune garçon dans tous ses états déboule à l'accueil du commissariat. Voilà, je suis très inquiet. J'ai plus de nouvelles de mon ex-petite amie depuis plusieurs semaines, Émilie. Émilie Bazin. Et alors ce qui m'inquiète, c'est que quand elle a disparu, quoi, elle était avec lui. Et là, le gars montre au policier la photo de Rezala découpée dans le journal. Nom de Dieu ! Il en a donc peut-être tué une troisième. Dites-moi, monsieur, depuis quand est-ce que vous n'avez plus de nouvelles de votre petite amie, Émilie ? C'est mon ex-petite amie. Parce que justement, la dernière fois que je l'ai vue, c'est quand elle est venue à la Maison Bleue, c'est la résidence étudiante où j'habite dans le centre-ville, à Amiens. Quand elle est venue à la Maison Bleue pour me dire qu'elle me quittait. Et depuis, j'ai plus du tout de nouvelles. Mais comment est-ce que vous savez qu'elle est partie avec ce Sidi Ahmed Rezala ? Ben parce que Sidi, il traînait souvent à la résidence. Et des amis m'ont dit qu'elle était partie avec lui. Et là, je viens de m'apercevoir que ce Sidi-là, c'est celui de la photo. Les policiers vérifient. Les parents d'Émilie Bazin ont en effet signalé la disparition de leur fille il y a plus de 2 mois. Alors les flics foncent à la Maison Bleue, où ça fait un moment qu'on n'a pas vu Sid. Ah, Sid ? Oui, je vois bien de qui vous parlez. On le voyait souvent, Sid, quand il y avait des fêtes ici. Un type sympa. On savait qu'il était jeune papa, il en parlait souvent, hein, de sa fille. Les policiers entendent un par un tous les amis de Sid, et à un moment, si vous voulez, je peux vous montrer où il habitait à l'époque. Hein. Ok, on y va tout de suite.
Arrivé sur place, les flics visitent l'appartement. Rien de particulier.
Dites, monsieur, vous savez s'il y a une cave dans cet appartement ?
Je sais pas.
Ouais, sans doute.
Les policiers descendent à la cave. Elle semble abandonnée. La poignée de la porte est cassée et il n'y a pas de lumière.
Tu sens l'odeur, là ?
Putain de merde, il y a un macabé quelque part.
L'odeur semble venir d'un petit tas de charbon au fond de cette cave crasseuse.
Ok, passe-moi la pelle.
Un policier se met à dégager le tas de charbon. Et là, apparaît un corps. Un cadavre en décomposition, avancé, une femme, ou plutôt une jeune fille, enveloppée dans un drap, avec une chemise en jean serrée autour du cou. Et l'autopsie le confirme le soir même. C'est Émilie Bazin.
Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, messieurs. La victime a eu un rapport sexuel avant sa mort. Viol ou pas, j'en sais rien. Mais on a retrouvé du sperme. Et donc, on a l'ADN du meurtrier.
Redzala est maintenant accusé de 3 meurtres. Il vient d'entrer officiellement dans le club très fermé des tueurs en série. L'une des galères de cette affaire, c'est que désormais, il y a 3 enquêtes. Celle des gendarmes de Châteauroux, l'étudiante anglaise jetée du train, celle de la PJ de Dijon, le meurtre du Calais Vintimille, et maintenant celle de la PJ d'Amiens pour le meurtre de la jeune Émilie. 3 enquêtes, 3 chefs d'enquête, 3 procureurs et 3 juges d'instruction. Et forcément, il y a des couacs, ça s'engueule, ça ne fait pas circuler les infos. Et donc, à un moment, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, siffle la fin de la partie.
On arrête les conneries, hein. On crée une cellule de coordination. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens.
Et il est décidé de mettre le paquet sur Marseille. On fouille les squats, les hôtels minables. On sollicite les tontons, les indiques. Rien, rien, rien. Normal, parce que ça fait un moment qu'il est loin de Marseille, Rizala. Il est à Barcelone. Il a débarqué là-bas dès qu'il est parti de chez son père. Avec 300 balles en poche. Autrement dit, pas grand-chose. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il est à Barcelone. Parce qu'un soir, il a volé un sac à main dans un bar et il s'est fait pincer. Mais les couillons de flics espagnols n'ont pas pensé à passer son nom au fichier. Ils auraient vu que ce Redzala était cherché par Interpol. Mais non, ils l'ont relâché au petit matin sans rien lui demander de plus. La guigne, cette enquête. La guigne. Mais c'est pas fini. Vous allez voir. Un jour, la meilleure amie de Redzala reçoit un appel téléphonique en provenance de l'étranger. Elle ne décroche pas, mais elle note le numéro et prévient la police.
C'est un numéro au Portugal. Tenez, le voilà.
Les policiers composent le numéro. Un homme leur répond.
Allô ?
Oui, bonjour, monsieur. C'est la police française à l'appareil. Dites-moi, vous avez appelé tout à l'heure un numéro en France.
Ah non, non. Je ne peux pas appeler de numéro en France, moi. Mais j'héberge un ami français, justement, en ce moment. C'est peut-être lui, hein.
Bingo ! Redzala est donc au Portugal. 2 jours plus tard, la meilleure amie qui a été placée sur écoute reçoit un nouveau coup de fil. La ligne est très mauvaise.
Dis, je voudrais avoir des nouvelles de ma fille. Savoir comment elle va.
Écoute, j'en sais rien. Mais si tu veux, je peux me renseigner.
D'accord. Je te donne un numéro de téléphone. Hein, tu me rappelles quand t'as des news.
Le numéro confirme qu'il est au Portugal, dans la banlieue de Lisbonne.
Bon, maintenant, faut pas traîner. Hein. Faut pas le laisser filer.
La police portugaise reçoit immédiatement un mandat d'arrêt international. Elle boucle le quartier où Redzala est sans cesse planqué. Et le 12 janvier 2000, un peu avant 14 heures, Redzala est arrêté sans violence. Ça s'est joué un peu. Hein. Il allait partir le lendemain pour les Canaries. Redzala est emmené au poste de police et il est interrogé par les Portugais.
Il ne dit rien. Ou presque. J'ai des pulsions. Je peux pas les contrôler. J'ai des flashs dans la tête aussi. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Redzala est envoyé en prison, et de sa cellule, il fait savoir au juge portugais qu'il refuse son extradition vers la France. Et dans l'Europe pas finie de l'époque, il en a le droit, figurez-vous, car la constitution portugaise ne reconnaît pas la réclusion criminelle à perpétuité. Or, c'est exactement ce qu'il risque en France. Les Portugais ne peuvent pas l'extrader. Elle est mal barrée, l'Union européenne, en matière judiciaire à l'époque. Décidément, cette enquête est un enfer. Du coup, la justice française est obligée de financer. Elle change la formulation de sa demande d'extradition. Elle réclame maintenant Redzala, non pas pour assassinat, peine qui l'expose à la perpétuité, mais pour meurtre, pour homicide volontaire, ce qui l'expose à 30 ans maximum. Il sera toujours temps de revenir à la qualification d'assassinat plus tard, une fois qu'il sera rapatrié en France. Et ouf, les Portugais acceptent. Et c'est pile à ce moment-là que Redzala fait une tentative de suicide en prison. Il se taillade les veines et il faut le transférer dans une prison-hôpital de la banlieue de Lisbonne, où il reçoit immédiatement la visite de policiers français.
« Je ne signerai pas votre procès-verbal. » Vous pouvez aller vous brosser, hein.
Mais hors procès-verbal, il leur parle un peu.
Ce qui s'est passé dans le Calais Vintimille, j'avais beaucoup bu, j'avais beaucoup fumé. J'ai fait un bad trip, quoi. Et puis je me suis dit, cette fille va s'en prendre à moi. J'étais dans un tunnel, vous comprenez? Vous savez, avec des voiles rouges, là. Des voiles rouges devant les yeux.
D'accord, d'accord. Le zigomar a l'air bien perché. Donc les flics français n'ont pas pu lui extorquer d'aveux. Mais des aveux, il va en faire à un journaliste, figurez-vous. Un journaliste du Figaro Magazine, Aziz Zemmoury, qui tente un truc très gonflé, très gonflé. Et je le connais un peu, ça lui ressemble. C'est un très bon Zemmoury, un très bon. Il prend l'avion pour Lisbonne et il va tout droit à la prison.
Bonjour. Voilà, je voudrais avoir un parloir avec un Français qui est ici. Sid Ahmed Redzala. Et vous êtes qui par rapport à lui? Je suis son beau-frère.
Pinocchio, Zemmoury. Pinocchio. Mais ça marche. Il obtient un parloir tranquille pépère avec Redzala. Et ça donne un grand papier à la une du Figaro Magazine. Exclusif, accablant, décousu, insupportable par moments, voici les aveux de Sid Ahmed Redzala tels qu'ils ont été recueillis par notre reporter dans sa prison portugaise. Et dans cette interview, Redzala avoue les trois meurtres.
J'ai fait la connaissance d'Émilie Bazin à l'université à Amiens. Je vendais du shit. Et des potes d'Émilie me l'ont présenté parce qu'elle fumait elle aussi. On a sympathisé quoi. Et elle sortait avec deux mecs. Et il y en avait un, c'était un gros. Et une fois, je l'ai vu pleurer, ce gros. Ça m'a fait pitié. Il pleurait parce qu'il souffrait avec Émilie. Moi, je l'aimais bien, ce gros. J'ai voulu le venger, ce mec. J'ai eu comme un flash.
Et pour Isabelle Pic, dans le train Limoges-Paris.
Elle était douce, celle-là. Et on a sympathisé à la gare de Limoges. Il était 3h du mat'. Elle a téléphoné à son mec. Elle a tiré sur mon joint. Et j'ai encore vu un flash.
Quant à Corinne Caillot, dans le Paris Vintimille, c'était totalement gratuit.
Je comprends pas. Je n'ai pas vu qu'elle avait un gamin. Parce que si j'avais su, j'aurais rien fait, c'est sûr.
Il confie aussi à Aziz Zemmoury une blessure secrète.
Je me suis fait violer à l'âge de 9 ans. Par des jeunes du quartier. Bon, moi aussi j'ai violé, hein. Et puis je me suis fait violer en prison, en France. Je veux pas retourner en France.
Et il conclut son interview par cette supplique.
Que Dieu aide les familles, hein. Et que moi, il me donne que du malheur.
En France, autant vous dire que cette interview, dans un magazine de la droite morale, fait un peu de bruit, hein. On accuse le Figaro Magazine d'avoir monnayé cette interview. Cette histoire se termine le 28 juin 2000. C'est une soirée très particulière. La France et le Portugal s'affrontent pour une place en finale de l'Euro 2000 de football.
Abel Javier, Sergio Conceição qu'on a pratiquement pas...
À la prison hôpital près de Lisbonne, les surveillants évidemment sont devant leur télé. Ils encouragent Nuno Gomes et Luis Figo et ils crient et ils lèvent les bras au ciel. Et il ne voit pas que Sid Ahmed Rezala vient de mettre le feu à sa cellule. Il ne s'en aperçoit qu'à 22h30 quand un gardien voit de la fumée sous la porte de sa cellule. Il tente d'entrer, mais la porte est bloquée par un lit. Quand ils arrivent à pénétrer dans la cellule, c'est trop tard. Rezala est inconscient, il est encore vivant, mais il a inhalé beaucoup de fumée. Les gardiens tentent de le ranimer. Ils n'y parviennent pas. À 23h, Sid Ahmed Rezala est déclaré mort. Mais nom de Dieu, quelle enquête maudite ! Il n'y aura jamais de procès. Il ne sera jamais jugé. Et en droit, on ne pourra jamais dire qu'il est l'assassin des trois jeunes filles. Il est mort, innocent. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.